journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1.
Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, votre espace de commentaires, d'expressions, de débats et d'analyses autour des sujets qui font l'actualité en Afrique, en France et dans le monde. Aujourd'hui, dans le JDA, actualité française avec le sujet des violences policières. Ce sujet a fait irruption dans le débat français en pleine crise des gilets jaunes. En marge des manifestations, plusieurs dizaines de personnes ont été blessées, certaines sont même mutilées. En banlieue, on estime que les gilets jaunes découvrent une réalité que les banlieusards connaissent déjà d'ailleurs. Le 2 février prochain, cela fera 2 ans que Théo Louaka a été gravement blessé lors d'un contrôle de police à Aulnay. Alors la France découvre-t-elle les violences policières et le gouvernement doit-il enfin revoir ses méthodes, les méthodes de la police plutôt, et notamment l'utilisation de flashball? Nous en parlerons dans quelques instants avec Ibrahim Sorel Keïta, vice-président de SOS Racisme. L'association organise demain soir, le vendredi 1er février, à la Bellevilloise, c'est dans le 20e arrondissement de Paris, une soirée débat autour des violences policières, notamment en présence de Théo Louaka et de sa famille. Pour participer à cette émission, nous faire part de vos analyses, témoignez, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et puis pour nous apporter un point de vue depuis un autre pays dans le monde, et notamment depuis le continent africain, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Mais d'abord, comme de tradition, un tour du côté du répondeur pour écouter quelques-uns de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour, moi j'aimerais intervenir sur la situation au Cameroun. C'est juste pour répondre aux gens qui sont en train de critiquer les jeunes qui sont levés pour aller saccager l'ambassade du Cameroun. Je tiens à souligner que le Cameroun, avec la situation actuelle et avec ce que Paul Biya et ses amis ils ont mis en place, c'est un pays, je ne peux même plus appeler ça pays, donc ils ne respectent aucune loi. Et pourquoi on devrait respecter? En fait, les gens qui manifestent, on tire sur eux. Je trouve ça normal qu'en solidarité, puisque dans ce pays-là, on ne peut plus marcher pacifiquement, dans ce cas-là, il n'y a plus de pays, même l'ambassade, moi je félicite les gens qui l'ont fait. Merci.
Oui, bonjour Amit Jia, bonjour mes chers frères africains, bonjour tous les Camerounais qui vivent au Cameroun et la diaspora. Ce matin, je suis vraiment choqué, parce que mon pays, le Cameroun, que j'ai un respect et que j'aime beaucoup, comme tout Camerounais, est rentré en arrière, 50 ans en arrière. Ce qui se passe, l'image que j'ai vue dans mon pays, ça m'a fait mal de voir comment ce pays, qui était, disons, un pays que les gens disaient démocratique, mais c'est un pays, vraiment, je ne sais même pas quel nom qui n'est pas attribué à ce pays. Franchement, c'est du jamais vu qu'on tisse des balles sur les cuisses d'une dame, franchement, d'une mère d'enfant, parce qu'elle veut marcher simplement. On tire des balles sur un membre d'une opposition de RMC. Je ne sais pas, franchement, ça fait mal. Je remercie le bon Dieu que la paix revienne dans ce pays, que tout le monde puisse mettre l'eau dans son bain et se calmer. Merci et au revoir, mes JDA.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis de JDA. Bonjour, les peuples africains et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Madame Hartmann, le nouveau président est là, le nouveau maître de la République démocratique du Congo, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo, que tout le monde ou la communauté nationale, internationale, ils ont signé qu'il reste le président. Mais nous avons un éléphant que nous avons dénoncé pendant plus de 18 ans. L'éléphant est là, il est tombé, il est par terre. Mais il a toujours ses cornes, comme nous appelons les ivoires. C'est l'éléphant, c'est les ivoires qui coûtent cher, c'est les ivoires qui est l'argent. C'est M. Kabila, que nous appelons maintenant ivoire, il est tombé par terre. Mais nous demandons à M. Félix Tshisekedi, Kabila, sa place n'est pas vivre là où il y a les Congolais. Aïko Mopongi, résistant combattant, etc.
Oui, bonjour, chers amis du JDA. Je reviens un peu sur le cas de M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, et de ce quoi il est le président de RHDP. Comment il peut être le président de la République et être le président du parti? Cela n'est pas possible. n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Et particulièrement en Côte d'Ivoire qu'on voit ce genre de choses. Il y a le président qui se permet de limoger un maire, qui se permet de gérer certaines choses alors qu'il a des personnes compétentes pour ça. Mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. À quand est-ce que nous allons être majeurs? À quand est-ce que nous allons prouver au monde entier que nous sommes des personnes matures? Ben oui, je crois que Charles Trenet avait raison quand il nous a traité que les Africains sont des grands enfants. Ben, merci, chers amis du JDA. Et cela fait vraiment mal au cœur de savoir qu'un président de la République est président d'un mouvement qui se dit RHDP, qui n'adhère pas, qui ne fait pas l'adhésion de tous les Ivoiriens. Merci.
Chers amis du JDA, bonjour. J'interviens à propos de l'émission concernant la violence policière en France. Je vais être vraiment bref. Moi, je pense que la question de la violence policière en France n'est pas quelque chose qu'on va mettre en doute. La police en France est formée juste pour réprimer. L'aspect qu'on appelle l'aspect dialogue, l'aspect communication n'est pas pris en compte dans la formation de la police en France. Ceux qui ont encore une bonne mémoire, ils se rappellent de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit « la police n'est pas là dans le quartier pour aller jouer au foot avec les jeunes. La police est là pour imposer la loi. » Voilà ce qui est ce qu'on peut comprendre de la formation de la police. Voilà, je vous remercie, Max de la région parisienne.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Alors, comme promis, hein, suite à l'émission d'hier sur le Cameroun, quelques messages que vous nous avez envoyé sur Facebook, et notamment Tierno hein, qui écrivait ceci: guerre avec Boko Haram, guerre avec les séparatistes anglophones, crise sociale, crise politique. Le pouvoir hein, de Paul Biya a pris beaucoup de risques en engageant le bras de fer avec son principal opposant, professeur, avocat, homme politique très populaire. Cet enlèvement, nous dit Tierno de Maurice Camteau, ne restera pas sans suite. Et il y avait Kabilo Tel Kabilo hein, qui nous disait: nos présidents passent beaucoup de temps à Paris, mais ils ne connaissent pas bien ce que c'est que la démocratie, la liberté d'expression. Le pouvoir devrait s'adoucir pour conduire la libération de tous les prisonniers politiques, hein, tels que les cyberactivistes, les opposants. Si Maurice Camteau meurt en prison, c'est que le pouvoir a été trop dur. On n'en est pas encore là, bien sûr. Merci hein, pour vos messages. D'une violence policière à une autre, nous parlons aujourd'hui en effet hein, des violences policières en France. Enfin, la fin du déni, point d'interrogation. Si vous souhaitez réagir, 01 55 07 58 00. Et nous en parlons d'abord, sans plus tarder, avec Ibrahim Sorel Keïta. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Stéphanie, comment tu vas?
Ça va très bien.
Ouais, je sors d'un taxi, je sors d'une réunion justement avec Théo.
D'accord.
Et j'ai couru pour être à l'heure.
C'est très gentil, merci hein, Ibrahim Sorel Keïta d'avoir répondu à notre invitation. Alors justement, on va parler hein, dans quelques instants de la soirée hein, que SOS Racisme organise demain soir hein, à la Belleville-de-Vouloise avec Théo Louaka. Mais d'abord, une petite première question hein, pour entamer cette discussion, cette émission, mon cher Ibrahim. Hein. Les violences policières hein, ont fait éruption dans le débat politique en France avec la crise des gilets jaunes. Alors, selon un décompte hein, d'un journaliste de Mediapart, suite aux manifestations, il y a eu 358 signalements à l'IGPN. C'est la police des polices, un décès, 160 blessures à la tête, 17 éborgnés, c'est-à-dire 17 personnes qui ont perdu un œil, et il y a eu 4 mains arrachées. Ibrahim Sorel Keïta, est-ce que vous êtes d'accord quand l'activiste Rokhaya Diallo dit ceci, dit finalement les violences policières hein, sont extrêmement nombreuses, elles ne datent pas d'aujourd'hui, les quartiers populaires la subissent depuis très longtemps, mais ça n'intéressait pas grand monde?
Ben oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a dit. Je la salue si elle nous écoute, c'est une frangine. Je trouve qu'effectivement, depuis de nombreuses années, nos quartiers populaires, notamment en banlieue, sont le théâtre de violences inouïes qui, pour être honnête, n'ont pas eu les réactions qu'on a aujourd'hui. On a l'impression que parce que ce sont probablement, il faut le dire, des jeunes issus de l'immigration ou issus de ces quartiers-là, on n'a pas le sentiment d'avoir obtenu une espèce de mobilisation très forte de l'opinion publique française et de l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, c'est tant mieux qu'aujourd'hui, il y ait une émotion suite aux violences subies par les Gilets jaunes.
Mmh. En effet, hein, nombreuses hein, sont les familles meurtries, notamment en banlieue. On pensait à la famille, bien sûr, d'Adama Traoré, celle de Lamine Gueye. Et puis, il y a 2 ans, donc je le disais en introduction, hein, Théo Louaka était gravement blessé lors d'un contrôle de police. 4 policiers ont été mis en examen pour violence volontaire aggravée. L'un a été mis en examen pour viol. Oui. On rappelle que la matraque du policier a perforé la zone périanale du jeune homme sur 10 cents, hein, qui a des séquelles encore hein, 2 ans après. Ibrahim Sorel Keïta, où en est l'instruction concernant l'affaire Théo? Est-ce que vous avez bon espoir que le qualificatif de viol soit maintenu? Est-ce qu'on se dirige vers un procès?
Ben, on se dirige forcément vers un procès, mais après cette qualification, il n'est pas sûr qu'on puisse l'obtenir, parce que vous avez bien vu tout ce qui a été dit autour de cette affaire Théo, notamment les accusations contre la famille. Il y a une volonté de nuire à l'image de Théo, il y a une volonté finalement de transformer la victime en bourreau ou en tout cas en délinquant. Et ça, c'est totalement inadmissible, parce que ce qui s'est passé au mois de février, le 2 février 2017, à Aulnay, évidemment dans la suite des violences policières qu'ont subi beaucoup de jeunes dans ces quartiers difficiles, ben finalement, c'est quand même quelque chose qui montre que dans ce pays, la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme, on a une approche assez discriminatoire, en tout cas différenciée, du respect des droits de l'homme. Et aujourd'hui, vous savez peut-être que 3 des policiers ont été réintégrés, ce qui est totalement fou. Donc ils ont été suspendus de la police suite à l'affaire. Et quelques mois plus tard, 3 d'entre eux ont été réintégrés. Il y a un seul qui aujourd'hui a subi l'interdiction de pratiquer une fonction de sécurité. Et aujourd'hui, on s'achemine plutôt vers la qualification de violence, je dirais même involontaire, hein, parce que même les violences volontaires, si on y prend garde, c'est pas sûr qu'on puisse aboutir à cela. Donc moi, je suis assez inquiet sur la justice dans cette affaire-là. Je vais pas
trop. Vous êtes pessimiste, Ibrahim, c'est ça?
Ouais, je suis pessimiste. Je vais pas m'étendre parce que bon, il y a quand même une instruction qui se poursuit et il y a quand même un certain nombre d'expertises qui sont en cours. Mais au regard de ce que je vois, au regard de ce que j'entends, au regard aussi de toute cette stigmatisation dont la famille a été victime, ils sont humiliés, ces gens-là. Ils sont victimes de choses très graves. Et aujourd'hui, on a tendance à les montrer du doigt et à les accuser d'être des délinquants, quoi. Et donc, c'est le monde à l'envers. Et ça, du coup, nous autres militants, nous autres dirigeants associatifs, qui sommes conscients que depuis de nombreuses années, comme l'a dit Rokhaya, dans ces quartiers-là, on a une espèce de zone de non-droit, c'est pas très rassurant. Mais nous sommes vigilants et je pense que la crise des Gilets jaunes, finalement, peut nous donner quelque espoir sur le fait qu'une fois mobilisés, une fois que le rapport de force est installé dans un pays, les gouvernants et les institutions peut-être peuvent bouger dans le sens de la défense des principes et des valeurs républicaines.
J'avais intitulé cette émission justement, hein, peut-être va-t-on vers la fin du déni concernant les violences policières en France. On verra si cette affaire de Gilets jaunes met à jour effectivement ce problème longtemps dénoncé par les associations en France. On a rappelé, vous l'avez dit Ibrahim, Sorel Keïta, que Théo a été aussi mis en examen quelques temps après pour une affaire d'escroquerie. Son avocat dit qu'il a découvert avec cette affaire le vrai racisme et que si Théo avait été un bourgeois blanc, petit bourgeois blanc, je cite sa version, n'aurait jamais autant été remise en cause. La parole est à vous, chers auditeurs 01 55 07 58 00. Restez à l'écoute, Ibrahim, je reviens vers vous dans quelques instants. On va écouter nos auditeurs. On commence par Sekou, bonjour.
Et bonjour, vous allez bien?
Ça va bien, bonjour Sekou, merci de votre patience, bienvenue dans le JDA. Alors quel regard portez-vous sur ces violences?
Moi en fait je suis totalement d'accord avec ce que disait votre, votre invité. Et en plus, je vais en rajouter. Il y a des gens de quartier qui se sont fait tirer dessus à balles réelles pour moins que ça. J'ai juste un exemple, il y a pas longtemps, à Villeneuve-la-Garenne, dans ma ville, il y a un jeune, parce qu'il y avait un contrôle de police, il a mis le clignotant pour esquiver le policier pour partir, parce que c'était fini. Le policier lui a tiré dessus un motard. Et vous avez vu la vidéo de comment ça s'est passé, les trois policiers qui se sont fait agresser. Le policier a sorti son arme, c'est tout ce qu'il a fait. Ça aurait été dans un quartier, dans une ville comme Villeneuve-la-Garenne ou autre, le policier lui aurait tiré dessus directement. C'est-à-dire c'est deux poids, deux mesures. Et on le voit dans les médias, pas vous en général, mais dans les autres médias, vos confrères, ils essayent de gentil, comment dire,
finalement, je trouve pas mes mots aussi.
Moi aussi, je trouve pas comment dire. Ils essaient de minimiser. En fait, c'est pas la même chose. Quand c'est le jeune de banlieue, c'est le jeune de banlieue immigré, c'est des voyous, c'est des lâches.
Ils l'ont bien cherché. Il y a un côté, s'il y a des violences, ils l'ont bien cherché. D'accord.
Ils ont bien cherché. Ils ont bien l'habitude. C'est sale, c'est des musulmans, c'est des machins, etc., etc. En fait, on dirait qu'ils sont là que pour faire le buzz, en fait. Pour attirer les gens à les écouter. Waouh, la banlieue, c'est dangereux, etc. Le 9-3, attention. Et en fait, là maintenant, ils se rendent compte de ce que les gens vivent, mais je trouve qu'ils n'ont rien reçu, les gilets jaunes. Franchement, je trouve qu'ils n'ont rien reçu par rapport aux émeutes de 2005, ou quand il y a des trucs qui se passent dans les banlieues, ce qu'ils font les policiers, les jeunes qui sont morts en moto, qui se font tamponner en moto, ou les autres trucs, mais on n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien reçu pour moi, les gilets jaunes, leurs yeux en moins, etc. Je vais pas dire bien fait pour eux parce que ça va être méchant, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on vit tous les jours.
C'est ce qu'on vit tous les jours. Est-ce que vous pensez justement que la France va... Parce que vous parliez des médias, justement, où sur les médias, on prend systématiquement la défense de la police et puis on accuse souvent les victimes. Est-ce que, selon vous, ça va changer le fait que, voilà, il y a d'autres sociologies en France qui se plaignent de violences policières?
Non. Ça va pas changer. Bon. Parce que c'est juste en fait que pour l'instant T, ils vont en parler, ils vont dire ouais, il y a des violences policières, etc. Ils vont essayer de les défendre un peu, les policiers, ils vont essayer de descendre les manifestants. Et ensuite, c'est tout, c'est fini. Mais là, on cherche pas l'excuse. En fait, ce qui me choque, moi, c'est qu'on cherche pas l'excuse. On dit pas la même chose. Oui, c'est des musulmans.
On a entendu un peu ces coups quand même, en disant oui, c'est des casseurs, il y a des casseurs, tout ça. On a montré les mecs qui essayent de boxer.
Moi, j'en profite pour, sur cette radio, s'il y a des jeunes de banlieue qui écoutent, ne participez même pas aux manifestations des gilets jaunes. Ils ont augmenté l'essence, ils ont un problème avec ça, ils ont qu'à tout casser, c'est leur problème. Maintenant, ne vous occupez même pas, faites votre vie comme vous devez la faire, tranquillement, comme tout le monde. Chacun, il fait sa vie, s'ils veulent casser, ils vont casser. Mais ne participez même pas. Non, faut même pas qu'on en parle. Faut même pas qu'ils viennent nous voir, nous demander notre avis, etc., etc. Faites ce que vous avez à faire. Pourquoi maintenant? Là, j'en profite aussi. Là, ils en parlent des djihadistes, soi-disant 130 djihadistes qui vont venir en France. Ça va être dangereux, ça va être la guerre, ça va être etc. Mais les mecs, ils vont venir en France, ils vont aller en prison. Ils vont en prendre 30 ans pour perpétuité. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez à quoi à alimenter cette haine, cette peur aux gens? Moi, c'est ce que je comprends pas, en fait. Et je répète encore une fois, ne participez pas à aucune manifestation. Restez chez vous.
C'est très clair, Sékou. Merci beaucoup, Sékou, de votre intervention. Sékou, qui dit finalement, voilà, nous, on les connaît bien, les violences policières, et c'est souvent d'ailleurs les victimes qu'on accuse. Alors, Sékou lui dit, j'invite les jeunes de banlieue à ne pas participer à aucune manifestation. Il y a d'autres collectifs qui, eux, appellent à participer aux manifestations des Gilets jaunes, dont le collectif La Vérité. Pour Adama, ils écrivent ceci, pour l'acte 12, des familles de victimes des quartiers populaires, cheminots, plateformes d'enquête militantes, appellent à une marche contre les violences policières des quartiers populaires aux gilets jaunes. Donc l'acte 12, c'est pour samedi, normalement. Younous, bonjour.
Oui, bonjour, madame Atman.
Bonjour, Younous. Vous voulez peut-être témoigner, vous dites on est chaque jour victime de violences policières. On le sait, à chaque fois qu'on fait une émission sur cette question, vous êtes nombreux à dénoncer les actes que vous avez subis, parfois insultes.
Oui, mais moi, si vous parle même à la radio, j'étais victime de ça.
Je crois que vous avez déjà parlé, en effet, Younous. Rappelez-nous ce qui vous est passé, ce qui vous est arrivé.
C'est au moment où les nouvelles voitures étaient sorties, les Clio 4. Moi, je travaillais, je suis quelqu'un qui travaille depuis que je suis venu en France, je travaille. Et les policiers, il y avait beaucoup, j'étais avec des blancs qui me suivaient derrière, ils les ont pas arrêtés. C'est des policiers. Et ils m'ont arrêté. Ils m'ont demandé où j'ai pris cette voiture-là. Ils m'ont demandé les papiers de la voiture, j'ai sorti tout. J'ai acheté la voiture, je l'ai pris. Et puis, quand ils ont vu que la voiture m'appartient, j'avais tout à, tout à
Ouais, si c'est un contrôle d'identité, ils vous ont pas insulté ni frappé, Younous.
Mais attends, je te dis.
Non, ouais, des contrôles abusifs, ça, c'est effectivement, ça, c'est bon, ça, on peut mettre dans le même rôle. Hein, dans, le contrôle abusif, c'est une violence.
Tu dis quelque chose, j'étais le seul noir qu'ils avaient arrêté.
Bien sûr.
C'est dans le nord, dans le nord, où il y a le Rassemblement national. Là où j'habitais, le maire, le préfet, c'était ton Rassemblement national.
De l'extrême droite, d'accord. Et du coup, Younous, quand cette dénonciation des violences policières par les Gilets jaunes, est-ce que vous pensez que du coup, ça va faire une prise de conscience?
Mais non, parce que si c'est les Blancs, ils vont prendre ça en considération. Si c'est les immigrants noirs, ils s'en foutent.
Ouais, il y a des Français noirs, hein, je vous rassure, Younous. Hein.
Le problème, c'est ça. Moi, je suis... Et puis, la dernière fois, j'ai regardé au comment ça s'appelle à la télé, BFM TV. Ils disent, les policiers, ils disent qu'ils n'ont pas fait exprès de faire violer le jeune, comment ça s'appelle, le jeune Théo. Mais c'est des conneries, ça. Comment ça s'appelle, le matraque ne peut pas rentrer derrière le jeune là. Ils ont fait ça exprès.
Vous espérez une condamnation des policiers, Younous?
On ne doit pas condamner un seul des policiers. C'est les autres collègues qui étaient avec lui, ils doivent être condamnés. Pourquoi ils condamnent un seul policier?
Personne n'est condamné pour l'instant, Younous. Ouais. Mais en effet, on a bien compris, vous sentiez concerné par ces violences. Merci beaucoup, Younous. On va écouter, je demande à Pasteur Diomo de patienter un peu, on va écouter Stéphane. Avant cela, Stéphane, bonjour.
Bonjour, madame Stéphane, vous allez bien?
Ça va bien et vous? Bonjour Stéphane, bienvenue dans le JDA. Vous dites, comme on disait un peu au début de l'émission, finalement les quartiers populaires, les banlieues, on n'a pas attendu les gilets jaunes pour se faire maltraiter par la police.
Non, pas du tout. Au contraire, comme l'a dit l'intervenant d'avant, je trouve même que les gilets jaunes ils sont vernis, parce qu'ils ne prennent pas assez de coups qu'en banlieue. Je dis ça de manière ironique, mais c'est la vérité. Moi, c'est un sujet j'ai tenu à appeler aujourd'hui parce que je suis bien passé pour en parler, parce que j'ai subi
des violences aussi policières.
Quand j'avais 20-21 ans, j'ai fait 48 heures de garde à vue juste parce que je ressemblais à une personne. Juste parce que je ressemblais à une personne, 48 heures de garde à vue, et j'ai pris des coups dans la voiture.
Parce que vous ressembliez à une personne, c'est ça, hein?
Oui, je ressemblais à une description. Et l'ironie, c'est que dans la voiture, ils avaient la photo de la personne qu'ils cherchaient.
Ouais.
Donc je leur ai dit, prenez-moi la peine de regarder. Ils n'ont pas pris, non. Ils m'ont foutu de coups jusqu'à ce que j'avais en garde à vue. Ouais. J'ai fait 48 heures et on m'a mis outrage à agent. Parce que, effectivement, les personnes qui cherchaient, ils ont arrêté, sauf que moi, on m'a gardé 48 heures.
Vous êtes rebellé un peu, oui, c'est normal.
Quand on vous attrape pour rien, sans rien sur vous, en chaussettes en plus, parce que je joue au foot, donc je suis en chaussettes, et qu'on vous fout des pains dans la gueule, on vous étrangle dans la voiture, jusqu'au commissariat, il y a de quoi être un peu énervé.
Ouais.
Pour justifier ça, c'était 48 heures, c'était 48 heures de garde à vue, outrage à agent. J'ai porté plainte contre ces policiers-là, et ça a duré un an, et il n'y a pas eu de suite.
Non lieu.
Donc, voilà. Donc, moi, ça ne me tombe pas trop, enfin.
C'est vraiment vous êtes senti victime d'une injustice, et en plus, à la fin, c'est vous qui êtes condamné, Stéphane.
Oui, parce que, pourquoi? Parce que mon seul témoignage à moi ne suffisait pas face à 3 policiers. Vous voyez? En bon lieu, on a l'habitude de dire que, pour qu'une victime ait raison sur un policier, il faut que sur moins 10.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? Et encore avec des images. Sinon, c'est toi qui passes, comme l'a fait Théo. Il était victime. Au final, c'est lui la victime qu'on fait passer pour le délinquant. Vous voyez, donc la banlieue, c'est les policiers. Si on pouvait filmer chaque policier à chaque intervention en banlieue, il y en aurait eu. Franchement, je pense que là, le plus on pourrait dire, les policiers abusent. Il y a un truc qui ne va pas en France entre le contrôle d'identité ou les interpellations qui se passent en banlieue. Mais on ne peut pas prendre le cas des manifestations pour la couleur banlieue parce que c'est pas pareil. C'est une manifestation, donc les policiers, ils mettent des coups, ils font ce qu'ils veulent. On va dire qu'ils sont là pour mater une manifestation. Je ne dis pas que c'est justifié, mais en banlieue, tu peux sortir de chez toi. Juste un contrôle, tu retrouves en garde à vue, la gueule pleine de sang, et pour rien du tout. Juste parce que il te pose une question, tu réponds, il n'aime pas comment tu réponds, ça finit mal.
Vous faites la différence et c'est intéressant. Je vous remercie Stéphane de votre témoignage et de nous avoir appelé. Je vous souhaite une excellente journée, c'est intéressant. Merci. Vous dites finalement, les policiers dans le cadre de manifestations, ils font ce qu'on appelle du maintien de l'ordre, c'est un peu normal. Par contre, que dans les quartiers, parfois, voilà, c'est vous sortez de chez vous, vous avez rien demandé, et vous tombe dessus. Merci encore, hein, Stéphane, de votre témoignage. Bonne journée à vous. Ibrahim, on écoute un dernier auditeur, pasteur, et je reviens vers vous tout de suite. Pasteur, bonjour.
Oui, bonjour, madame Altman.
Bonjour, pasteur.
Merci de m'accorder la parole.
Merci de votre patience.
Oui, de rien. Donc, je voulais tout à fait abonder dans le sens que les autres ont déjà dit, je pense qu'ils ont beaucoup dit. Effectivement, je crois qu'en France, il y a d'abord un problème avant tout, une espèce de racisme assumé plus ou moins dans la société. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où, quand cela arrive, on ramène directement ce problème-là aux origines de la personne. C'est-à-dire que les mêmes phénomènes peuvent arriver à des personnes blanches et puis arriver à des personnes noires, mais l'interprétation faite dans les grands médias, je parle par l'Afrique numéro 1 notamment, on parle des grands médias tels que les chaînes d'information en continu ou autres que les gens suivent en général, ils vont essayer d'aller voir dans la couleur de la personne, sa culture ou autre, peut-être qu'un phénomène qui n'avait pas du tout à la base de rapport avec ça. Et donc, du coup, on ramène tout à cela et donc ça permet de justifier ce qui va arriver à la personne. Mmh. Par rapport au contrôle, par exemple, on a très bien compris, tout le monde l'a compris depuis des années, qu'il y a un contrôle au faciès qui s'exerce. Et qu'on soit noir ou qu'on soit blanc, on n'est pas traité de la même manière. Et aujourd'hui, avec l'affaire des gilets jaunes, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Effectivement, là, les policiers font du maintien de l'ordre puisqu'il s'agit des manifestations. Donc, ils se sont retrouvés à cette situation où, évidemment, les violences ont commencé à être mises à nu parce qu'il y a eu une répétition des manifestations. Donc, au bout du compte, on a vu alors maintenant, entre parenthèses, si je puis dire, leur vraie nature ressortir parce qu'ils ont été un peu, si je puis dire, agacés par le fait qu'ils sont tout le temps sollicités, quasiment tous les samedis, depuis, je crois, 12 semaines. Donc, c'est là qui a fait ressortir cela. Mais dans les banlieues, c'est là est en permanence les problèmes des personnes, disons, noires ou bien maghrébines, qui sont subissantes.
Personnes racisées, dirons-nous.
Oui, effectivement. Donc, je crois que là, vraiment, le problème, c'est qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Et vous regardez, par exemple, les affaires des faits divers qui vont arriver à des personnes noires. On va tout de suite dire, on va aller chercher, par exemple, dans les médias fouillés ou même chez la police pour dire que peut-être un jour, il avait fraudé dans le métro ou bien qu'il avait eu une amende. Et donc, ça justifierait le fait que, entre parenthèses, plus ou moins, puisqu'on essaye un peu de sortir des choses sur la personne pour...
En fait, pasteur, ce qui se passe, c'est qu'on essaye surtout, et ce qu'on dit, hein, effectivement, depuis tout à l'heure, de discréditer la victime de violence policière. Merci beaucoup, pasteur. Le temps passe très vite, malheureusement. Je demande à Gilles peut-être de patienter un peu. Avant cela, Ibrahim Sorel Keïta, je reviens quand même vers vous. Au-delà de la question du racisme, hein, dont beaucoup d'auditeurs témoignent du racisme au sein de la police nationale, est-ce qu'il y a aussi un problème de méthode? On le sait, hein, plusieurs familles et plusieurs victimes, hein, dont celle d'Adama Traoré, hein, demandent l'arrêt de certaines méthodes d'interpellation, hein, comme l'espèce de clé de bras ou le fait que les policiers voilà, maintiennent l'interpellé au sol. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va aborder une réflexion sur ces méthodes? Est-ce que vous, SOS Racisme, vous demandez ça aussi?
Je pense qu'on n'en est pas là, mais juste avant, si vous permettez, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Sekou, parce qu'il a dit deux choses qui m'interpellent. Premièrement, j'ai senti une espèce de concurrence des victimes. Je pense qu'il faut éviter ça. Je pense qu'il faut être solidaire des victimes de ces dernières semaines et ne pas, comment dirais-je, c'était pas son cas, mais bon, ne pas se réjouir que ce soit aujourd'hui d'autres personnes qui subissent les violences policières. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a dit aussi que lui, il lançait un appel pour que les jeunes, les moins jeunes de banlieue se gardent de participer à ces mouvements. C'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Je pense que il faut rater aucune occasion de dénoncer les injustices, de se faire entendre, de revendiquer des droits. Et c'est le moment. Il faut le faire, évidemment, de manière pacifique. Parce que bon, la violence, il faut la dénoncer aussi lorsqu'elle provient des rangs des manifestants. Mais voilà, ça, je voudrais commencer par ça, par dire que moi, je pense même qu'il faudrait que les jeunes de banlieue investissent les territoires, investissent la capitale de manière pacifique. Attention, hein, c'est pas un appel à l'insurrection, mais pour se faire entendre, pour se faire voir, parce qu'ils sont gilets jaunes depuis toujours. Et c'est important qu'ils soient présents, qu'il y ait une vraie convergence entre les revendications, les acteurs de terrain dans les quartiers, tous ceux qui, depuis tant d'années, dans une espèce d'indifférence générale, hurlent, crient pour la défense de leurs droits. Je pense qu'ils doivent être en contact, au contraire, avec les gilets jaunes et faire en sorte que les revendications portent plus haut, plus fort, plus loin. Deuxièmement, donc pour répondre à votre interrogation, pourquoi je suis sceptique, c'est la journée du scepticisme, vous allez me dire, mais ben, parce qu'en ce moment on bosse sur une loi anti-casseurs. Le gouvernement projette de faire une loi et qui, d'après les informations que nous avons, va mettre remettre au goût du jour un certain nombre de choses qui, à mon avis, ne vont pas...
Il y a déjà l'interdiction administrative de manifester. Hein. Voilà, on pourrait interdire à des gens de sortir dans la rue.
Voilà. Je ne voulais pas trop long et
Ibrahim,
les aspects, mais bon, ça c'est inquiétant quand même.
Alors justement, vous l'avez dit, hein, cette loi anti-casseurs va être aussi au cœur de votre soirée débat de demain. Je l'ai dit, c'est à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement de Paris. Fait. C'est une soirée débat autour des violences policières. Allez-y, absolument. À partir de 19h.
C'est à 19h, donc de 19h à 22h. Donc vous êtes les bienvenus. Il faut juste appeler l'association pour vous inscrire. Et évidemment, ça se fera en deux temps. Il y aura une première table ronde justement sur les violences policières, mais plus particulièrement axée sur l'affaire Théo, justement pour expliquer où on en est de l'affaire Théo 2 ans après, avec la sœur de Théo et Léonore qui sera là, avec d'autres intervenants, journalistes. On aura un représentant de syndicats policiers aussi, mais il s'agira pas de venir faire de la police bashing. Hein. Il s'agira de discuter, d'échanger et de proposer des choses et de porter, comme je disais tout à l'heure aussi, un certain nombre de propositions et de revendications. Et ensuite, il y aura une deuxième partie très très importante autour cette fois-ci de Théo lui-même, qui a envie de tourner la page, bien sûr, qui a envie de rebondir, qui est en train de se reconstruire et qui se reconstruit à travers le lancement d'une association qui s'appelle Phoenix. Voilà, donc tout le monde sait que le phénix renaît de ses cendres, et c'est tout le bien qu'on peut espérer et qu'on peut souhaiter à Théo, et je suis persuadé, vu sa détermination, son engagement, parce que ce matin même, nous étions ensemble à Stein, avec l'association SFM, qui a assez d'expérience sur le terrain de l'insertion des jeunes, et pour justement voir comment Théo et son association SFM peuvent travailler ensemble. Donc Théo a vraiment envie de rebondir. Il a vraiment aujourd'hui un souci de d'une jeunesse responsable. Donc aujourd'hui, il s'agit pour cette association-là d'éviter justement que les jeunes se retrouvent par désœuvrement ou par tout simplement à traîner dans les quartiers ou à pas savoir quoi faire. Et parce que c'est tout cela aussi qui, parfois, crée les occasions de confrontation avec la police.
On aura peut-être l'occasion d'en parler sur cette antenne. Absolument. Ibrahim Sorel Keïta, merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Et puis, c'est super de faire tout cela, de libérer la parole à travers les antennes.
Merci Ibrahim Sorel Keïta. Je suis désolée, moi je vais devoir libérer l'antenne. Je rappelle, Ibrahim Sorel Keïta, vous êtes vice-président de SOS Racisme et que la soirée avec Théo, c'est demain à la Bellevilloise. Bonne journée.